Voix Nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Jean-Pierre Luminet. Ce soir, poésie des profondeurs.
Bonsoir Jean-Pierre Luminet.
Bonsoir.
C'est la quatrième soirée qu'on se retrouve ce soir. On a parlé lundi de votre enfance, de vos goûts pour tout ce qui était les arts, la création, la musique, l'écriture. Mardi et mercredi, on a parlé un peu plus de vos travaux de recherche avec une certaine propension à travailler sur des sujets un peu infréquentables, les trous noirs, les univers chiffonnés, la topologie cosmique. Ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un pan très important dans votre vie d'homme et de chercheur, c'est la création artistique, la poésie. Et j'aimerais savoir d'où vous vient cette passion et comment vous la pratiquez au quotidien.
Il faut bien préciser que toutes ces activités apparemment disparates ne sont pas le reflet d'une forme de schizophrénie, c'est-à-dire pour moi cela forme vraiment un tout. Alors c'est vrai que bon, lorsque je me mets à parler de mes travaux scientifiques, je ne fais pas d'allusion directe au fait qu'ils peuvent, par exemple, être en partie irrigués de façon souterraine, pas toujours également consciente, par tout un ensemble d'activités artistiques et réciproquement. Donc je crois que c'est en moi depuis mon enfance, puisque j'avais déjà dit dans la première émission, je crois que dans mon enfance, j'ai consacré effectivement l'essentiel de mon temps à des activités artistiques, donc poésie, art plastique et musique essentiellement. Que je n'ai non seulement jamais abandonné, mais au contraire, j'ai accentué toutes ces pratiques-là. Alors commençons par mon rapport à la poésie, peut-être. Oui. Pour moi, la poésie, c'est l'une des formes d'expression littéraire les plus élevées, même si après j'ai pratiqué le roman et puis évidemment l'essai, parce qu'elle pour moi, en tout cas, elle permet de dire des choses que les autres formes de littérature ne permettent pas forcément, et encore moins la science, voilà, pour explorer donc les profondeurs de l'âme humaine. Alors après, mon écriture poétique a énormément évidemment évolué. Hein. J'ai publié une dizaine de recueils. Alors c'est vrai qu'au début de mes écritures poétiques, j'avais tout de même un rapport relativement un peu schizophrénique entre mes activités professionnelles scientifiques et puis l'écriture poétique, parce que ça m'agaçait tout simplement que on me dise parfois « Vous êtes astronome ? Oh, vous êtes un poète alors !» Voilà, parce que bon, voilà, ça fait rêver simplement de parler des étoiles, voilà. Et puis donc je connaissais une forme de poésie dite astronomique qui utilise les grands mots de l'astronomie, énergie, étoile, machin, pour en faire des poèmes que je trouvais d'une pauvreté insignifiante. Absolument, voilà. Et donc, mon rapport a changé lorsque l'un de mes éditeurs, qui avait commencé à publier mes premiers recueils de poésie au début des années 80, m'a dit, mais je te lance le défi de faire une anthologie. Lis beaucoup de poésie d'origine cosmique et tu verras qu'il n'y a pas que cette poésie didactique qui reprend les mots du savant en les gonflant de façon outrancière pour en faire des pseudo-poèmes. Il y a une poésie profonde qui parle du cosmos, les intuitions poétiques, ce genre évidemment. Finalement, ça rejoignait quelque chose qui était en moi, c'est-à-dire l'intuition que l'on a lorsque l'on crée un modèle scientifique. C'est aussi l'intuition de l'artiste, l'intuition du créateur, l'intuition du peintre, du musicien, du poète. Et donc, je me suis plongé dans un grand nombre de lectures de la poésie de toutes les époques. Et donc, j'ai effectivement eu grand plaisir à faire cette anthologie, Les Poètes de l'Univers, qui a été publiée maintenant il y a plus de 20 ans. Et du coup, finalement, ça a commencé à influer sur ma propre pratique de la poésie. J'ai commencé moi-même à utiliser des mots du cosmos pour décrire en fait les choses qui se passent au fond de nous. Et donc ma poésie a beaucoup évolué dans ce sens à partir des années 80. Je crois qu'aussi dans sa structure même, dans son écriture sur la page, dans sa syntaxe et sa formulation, elle a aussi été influencée souterrainement, je pense, par mes travaux sur certains de mes travaux, notamment mes travaux sur la topologie, où la topologie, c'est cet art subtil de la géométrie qui peut décrire des rapports apparemment éloigné entre des points de l'espace que l'on peut rapprocher par des phénomènes de connexité. Et donc, il y a une forme d'écriture poétique qui permet de retranscrire d'une certaine manière, c'est-à-dire, ce n'est plus une lecture, on ne fait plus une lecture linéaire d'un poème, on commence par le premier vers, on finit par le dernier, comme si on racontait une histoire, mais on peut rentrer dans le poème, y compris dans son l'espace qu'il occupe dans la page également, de plusieurs manières différentes, ce qui crée une polysémie. Et moi, j'ai toujours été, ce qui me fascine en poésie, c'est la polysémie, la multiplicité de sens. Voilà, et donc la façon d'entrer de façon différente dans le poème permet de multiplier le sens et après utiliser également une syntaxe relativement floue, non commutative. Mais voilà, tout un ensemble de rapports avec des interrogations que je me pose pour la description plus ou moins objective de l'univers physique qui est extérieur à nous peut se transcrire en poésie. Donc voilà, donc une dizaine de recueils. Alors l'un d'entre eux joue un rôle c'est un petit peu particulier, ça s'appelle Un trou énorme dans le ciel. Voilà. Alors bon, moi c'est vrai que bon, je n'ai pas beaucoup parlé de ma vie intérieure et privée dans les médias, mais c'est vrai qu'en 2011, j'ai connu un drame absolu puisque j'ai perdu ma fille aînée dans un accident terrible auquel en plus j'ai assisté, donc c'est une faille irrémédiable de mon existence. Et donc, j'ai écrit ce petit recueil de poèmes parce que c'était effectivement un trou définitif dans l'existence qui ne pourra jamais être comblé. Mais ça montre aussi que la poésie permet non pas d'échapper évidemment à ces tourments intérieurs, tout le monde a des tourments intérieurs de différentes natures, mais voilà, peut jouer en partie seulement le rôle d'une forme de catharsis. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça le rôle de la poésie. Donc, ma poésie n'a rien d'astronomique, malgré les titres que je me plais à mettre itinéraire céleste, noir soleil, nature des choses, le prochain indicateur de la ligne du ciel. On peut dire, tiens, ça y est, c'est l'astronome qui parle, qui va écrire de la poésie. Puis, quand on pénètre dedans, c'est un univers radicalement différent.
Dans Noir Soleil, en 1993, vous dites souvent « je fuis les souvenirs profonds ». Est-ce que la poésie est un moyen pour vous de vous révéler en négatif? Vous qui êtes pudique, vous le dites, vous n'aimez pas parler de votre vie intime, de votre vie privée. Un trou énorme dans le ciel, c'est vraiment un cri très violent.
Ça, c'est un cri très intime, oui, c'est
très
vrai.
Dur.
J'ai beaucoup hésité d'ailleurs à le
Qu'est-ce qui vous a fait vous dire « on y va, je le publie quand même ».
Ben j'ai beaucoup hésité, c'est vrai. Et puis j'ai pensé que ça pouvait être utile à d'autres personnes qui avaient connu le même, ce genre de drame. Alors après, c'est vrai que bon, les lecteurs de recueils poétiques ont toujours tendance, en général, naturellement tendance à assimiler l'expression poétique d'un auteur à sa vie intime. Mais alors, il ne faut pas non plus faire de correspondance, trop brusque. Il y a forcément des éléments qui influent, mais après, c'est aussi une construction, psychologique, mais aussi une construction intellectuelle, d'une certaine façon, la construction d'un poème. Surtout lorsque j'ai parlé de le lien possible dans l'écriture avec la topologie, ce genre de choses. Il y a aussi une recherche formelle, également, de l'expression poétique, qui ne reflète pas nécessairement les émotions que l'on a, parce que c'est vrai que je suis un être qui est pétri complètement d'émotions, voilà, capable d'avoir des sentiments très très forts, des sentiments amoureux, des sentiments de tendresse, d'affection, voilà. Donc je parlais des enfants par exemple, j'en ai eu 5 en fait, donc j'ai perdu ma fille aînée, mais j'en ai eu 4 autres, qui sont les merveilles de mon existence, parce que c'est vrai que il n'y a pas de dissociation dans ma vie propre, ma vie intellectuelle, elle est aussi gouvernée par ma vie sentimentale, amoureuse, et ainsi de suite. Voilà, donc pétri d'émotion. Il est clair que des aspects profonds de ma vie privée, bons et moins bons, influent également sur mes inspirations et mon expression créatrice. Alors ça influe davantage, effectivement, dans mes activités artistiques que dans mes activités purement professionnelles. Parce que, je répète, pour moi, au fondement de toute pensée, il y a l'imagination. L'imagination qui va donc puiser dans notre imaginaire intérieur des images du monde, des représentations du monde que l'on se fait. Ces représentations du monde, elles peuvent être d'ordre poétique, elles peuvent être d'ordre musical, d'ordre scientifique, ainsi de suite. Mais après, on fait une construction à partir de cette mer qui est en nous, au plus profond de nous, dans laquelle d'ailleurs on va puiser souvent des archétypes que l'on retrouve un petit peu partout. Hein. Et donc, ces capacités créatrices de faire émerger quelque chose de cette mer intérieure, utilise beaucoup de formes différentes. Donc il y a des analogies, mais il y a aussi évidemment des différences entre l'élaboration d'un poème, l'élaboration d'une pièce de musique, un tableau, un dessin, une lithographie, un modèle scientifique. Il y a quelques similitudes, c'est-à-dire dans une mise en structure d'une idée originalement que l'on va puiser tout au fond de soi. Après, les méthodes de mise en structure sont radicalement différentes lorsqu'on écrit des équations, ou lorsqu'on écrit un poème, ou lorsqu'on fait des dessins. De à ce propos, pour en quelque sorte titiller, exciter cette capacité, cette imagination créatrice, qui est finalement une sorte d'excitation d'une partie de notre cerveau, de neurones créatifs. Bon, ça ferait rigoler évidemment ceux qui s'occupent des sciences cognitives, c'est mon langage à moi. Il y a des techniques et des moyens, voilà. Alors, je peux dire que moi, je connais trois drogues. Alors, je rassure tout de suite mes auditeurs. Il s'agit de drogues tout à fait douces. Ce sont pas les substances psychotropes qu'utilisait Henri Michaud de manière magnifique, par exemple, effectivement, pour expérimenter et découvrir des aspects de la pensée. Donc excité par des substances illicites en son temps et qui commencent à le devenir un peu moins aujourd'hui. Non, mes drogues, je vois surtout c'était la première, on en a déjà parlé, c'est le rêve. Sous ces deux formes, le rêve éveillé dont on a parlé, et puis également le rêve nocturne, puisque finalement ce sont des moments où le cerveau fonctionne différemment. Les ondes cérébrales, en sens cognitif, on connaît bien ça, dans le sommeil paradoxal, il y a des excitations particulières du cerveau, et c'est pour ça que lorsque dans la journée, par exemple, on a réfléchi à des problèmes difficile, de quelque ordre qu'il soit, que ce soit scientifique ou autre problème, le cerveau continue à travailler en tâche de fond pendant le sommeil, et ce qui est bien qu'au réveil, parfois, il y a des choses qui ont émergé, et pareil avec des formes de rêve éveillé dont j'ai parlé également. Première drogue, sympathique quand même. Voilà. La deuxième, c'est elle est connue depuis longtemps, c'est tout simple, c'est l'exercice physique. Puisque l'exercice physique, évidemment, augmente le flux sanguin dans le cerveau, tout un ensemble de choses. Et voilà. Et donc, alors moi, j'ai pratiqué du sport, j'ai eu une passion pour le tennis, mais c'est surtout, parce que le tennis, on est quand même concentré sur la technique, à faire les points, battre l'adversaire. C'est surtout dans les activités physiques solitaires, plus ou moins solitaires, où ça se déclenche. Et j'ai vécu des expériences extraordinaires dans ma vie à travers des trekking et des randonnées extrêmement dures que j'ai faites en groupe de 3 ou 4, mais on est seul malgré tout, même si on est entouré évidemment d'autres personnes qui font ça, en Islande, en Alaska, dans des contrées extrêmement sauvages. Un peu plus récemment, parce que l'âge avançant, je peux plus faire les choses que je faisais quand j'avais 35 ou 40 ans, mais je continue à aller marcher dans les montagnes, à faire de... et ce sont des moments où j'ai eu les sensations, des sortes de sentiments cosmiques les plus profonds. Puisque, au bout de plusieurs heures de randonnée, le cerveau, d'abord pendant la randonnée elle-même, on est solitaire, et puis c'est difficile, on porte un sac très lourd, ce genre de choses, etc. Donc le cerveau travaille. Puis à la fin, dans cet état d'épuisement physique, c'est comme si le mental se mettait en fusion avec la nature qui nous entoure. Enfin, surtout lorsqu'on est dans un endroit totalement désolé, comme ça m'est arrivé de l'être au fin fond de l'Alaska, ou des régions parce que personne n'était allé d'ailleurs à une époque. Ou en plein milieu de l'Islande, par exemple. Voilà. Et donc, vraiment, je me souviens encore, et pourtant, ça, c'était il y a plus de 30 ans. C'est encore en moi aujourd'hui, une connexion qui se crée quelque part avec le cosmos. Alors, je ne dis pas que c'est à ces moments-là où j'ai eu l'idée de l'univers chiffonné, mais tout de même, ça contribue. Voilà. Et la troisième drogue, alors je l'ai découverte relativement récemment, c'est le jeûne. Le jeûne intégral. Figurez-vous. Voilà. Donc j'ai commencé à expérimenter ça par curiosité. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. J'ai expérimenté ça et je le pratique maintenant régulièrement, enfin disons 2-3 fois par an. Et je peux vous dire que au bout, et c'est un conseil que je peux donner à mes auditeurs, au bout de 4-5 jours, il y a 2-3 jours un peu difficiles, mais pénibles à passer, le corps se met à fonctionner de façon complètement différente et surtout l'esprit lui-même. Une énergie mentale extraordinaire qui apparaît, qui nous donne une lucidité, alors une force créatrice extraordinaire, et une lucidité en toute chose. Donc, dans ces jeûnes-là, je me suis aperçu que pendant les semaines qui suivaient ces jeûnes-là, mon énergie mentale était largement augmentée, et m'est arrivé donc de buter pendant des semaines sur des articles qui me posaient problème, j'arrivais pas à mettre en forme. le jeûne passé, je le faisais en 2-3 jours. Et également pour les autres aspects de la vie, ça confère une forme de lucidité sur toute chose. Donc voilà les 3 drogues pour l'activité créatrice.
Jean-Pierre Luminet, dans ce que vous me dites, j'ai l'impression que d'entendre quelqu'un qui suit une quête mystique. Est-ce que c'est votre cas ?
Une quête, oui. Mystique, le mot serait trop fort. Alors c'est vrai que j'ai été, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai été éduqué au collège Saint-Charles, qui était un collège tenu par des frères. Donc une école religieuse, il y avait un enseignement religieux. Donc au départ, n'ayant pas le recul nécessaire pour juger cet enseignement, j'étais plutôt dans cette mouvance. C'était pas encore mystique, bien entendu, mais simplement une sorte de croyance à ce qu'on voulait bien. Et puis assez rapidement, j'ai commencé à prendre du recul. Bon, je le dis maintenant. Non, je suis athée, c'est en ce sens que je ne crois en aucune religion. Voilà. Mais en revanche, on fait souvent la confusion entre le fait d'être athée et le fait d'être totalement matérialiste et d'évacuer toute spiritualité. Au contraire, pour moi, la forme la plus importante de la pensée humaine, c'est une forme de spiritualité. Mais cette spiritualité ne passe pas nécessairement par la croyance en un être supérieur, par exemple, un dieu, appelons-le comme on veut, un grand architecte ou autre. Pour moi, c'est la vraie spiritualité, c'est simplement dans la vie, la seule vie, je pense, qui nous est impartie, dans les actes de bonté, de générosité que l'on peut faire aux autres. Pour moi, c'est ça la plus haute forme de spiritualité. Donc, notamment, dans la vie intime, dans la vie sentimentale, dans la vie de couple ou autre, etc. La spiritualité, pour moi, c'est donner tout ce que l'on pense pouvoir donner de meilleur. La bienveillance, la générosité, le soutien affectif, le support, ce genre de choses, voilà. Alors après, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, d'une part parce qu'on a chacun ses propres limites, et puis on ne comprend pas bien également nécessairement les demandes de l'autre, et l'autre n'est pas forcément également en mesure d'accepter ce don ou de le rendre, donc ça rend parfois les choses un petit peu compliquées, mais pour moi c'est ça, la plus haute forme de spiritualité, donc ce n'est pas le mysticisme au sens traditionnel du terme. Encore que je me souviens, à l'âge de 16, 17, 18 ans, jusqu'à peut-être une trentaine d'années, ayant quitté ces formes de croyances, religion catholique, ce genre de choses, voilà, je me suis quand même, ça veut dire que j'ai quand même un tempérament porté sur cette interrogation au-delà du monde matériel. J'ai beaucoup lu de livres sur les philosophies orientales, et tout un ensemble de choses. Et donc, j'étais quand même fasciné par ce côté mystique. J'ai lu aussi, évidemment, les œuvres des grands mystiques, comme Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, etc. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, qui me fascine. Après, toutes les questions, est-ce que ces révélations mystiques qui nous sont racontées à travers des récits absolument bouleversants parfois. Est-ce que ce sont des gens qui ont eu la chance d'avoir accès à quelque chose auquel moi je n'ai pas eu accès? Ce n'est pas exclu, voilà. Ou est-ce que c'est effectivement une conformation spéciale d'un fonctionnement particulier du cerveau humain qui crée quelque chose, qui crée une structure mentale particulière?
Jean-Pierre Luminet, vous me dites, il y a un thème qui revient un petit peu ce soir, assez étonnant, c'est la vie sentimentale, l'amour. Est-ce que vous êtes un grand amoureux ?
Je crois que j'ai une capacité d'amour assez très forte. Bon, ça m'embarrasse un petit peu de parler de ça. Non, parce que c'est vrai que très souvent, comme je m'exprime publiquement essentiellement, et on me demande de m'exprimer sur mes travaux scientifiques, et souvent on me pose la question, soit dans l'interview ou soit en dehors en général, après mes conférences, souvent aussi le public vient, etc. Mais comment vous faites dans la vie, vous êtes toujours complètement là-haut, vous n'avez pas les pieds sur Terre, bon, l'expression que je déteste, la tête dans les étoiles, quoi, comme si on était complètement déconnecté, etc., etc. Mais non, je répète, toutes les formes de l'existence, pour moi, forment un tout. À la maison, quand je suis en famille, etc., il y a ce rapport direct à la compagne ou à l'épouse, aux enfants, évidemment, et même aux tâches matérielles. Je fais des courses, je participe, tout ça. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas le cas de certains collègues que je connaisse qui se laissent vraiment chouchouter sans faire grand-chose à la maison. Donc, pour moi, ça forme un tout. Et je crois que, comme j'ai dit, je suis assez porté sur une forme de sentimentalité que je crois j'ai hérité de mon père, parce que je le voyais effectivement avec ma mère, qui parfois justement prenait un petit peu ses distances avec des formes de sentimentalité ou de demandes de tendresse, d'affection visible par des signes visibles. Il y a des gens qui sont pas trop faits pour ça, qui reçoivent pas forcément ça ou qui n'arrivent pas à le rendre et à le donner. Donc ça peut poser effectivement des problèmes, et donc voilà, j'ai un peu sur ce plan-là, j'ai pu avoir une sensibilité un petit peu de chat écorché, voilà. Mais bon, passons à autre chose, si vous le voulez bien.
Alors, revenons alors oui. à la création artistique.
Oui.
Quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, dans les entretiens de vous, j'ai pu lire, Jean-Pierre Luminet, c'est que pendant longtemps, vous avez bien séparé, bien distingué, voulu garder chaque élément à sa place, on va dire, les arts, les sciences, ne pas les faire se rencontrer. Pourquoi est-ce que, à un moment donné, ces éléments-là se sont imbriqués pour donner naissance à d'autres formes de création dans votre vie?
Oui, alors en fait, ce que vous dites là s'appliquait, comme je l'ai déjà dit, essentiellement à l'écriture poétique, et j'ai expliqué pourquoi j'avais commencé à changer. C'était pas le cas, par exemple, dans mes activités dans ce qu'on va dire les arts plastiques. Donc très tôt, très jeune, poussé par ma mère, j'ai commencé à beaucoup dessiner également, me lancer un petit peu à la peinture à l'huile, à l'aquarelle, ce genre de choses. Bon, je faisais des paysages, je reproduisais des tableaux, je faisais des portraits. J'ai beaucoup pratiqué le pastel d'ailleurs également, que je maîtrisais assez bien. J'ai encore d'ailleurs, j'ai gardé quelques très grands portraits que je faisais au pastel, qui n'étaient que des reproductions en fait de grands tableaux, mais je me souviens avoir fait les portraits d'Isaac Newton, de Camille Flammarion, entre autres, et puis également de compositeurs, l'autre passion musicale, hein, de Chopin, Liszt, etc., etc. Et puis après, je suis passé au dessin à l'encre de Chine. J'ai adoré la technique de l'encre de Chine, et c'est là où ça a commencé à, comment dire, j'ai commencé à m'intéresser aux structures particulières, des structures, l'architecture impossible. Alors c'est vrai que c'est une époque, je devais avoir 17-18 ans, j'ai découvert l'œuvre du néerlandais Escher, un grand graveur néerlandais qui faisait des perspectives impossibles, des choses assez fascinantes, d'ailleurs en relation avec le génial mathématicien Roger Penrose, qui est un de mes collègues, ouais. Avec qui d'ailleurs j'ai eu l'occasion de discuter une fois lorsqu'il était venu à Meudon. On avait discuté justement de ces rapports, de ces relations avec Escher. Et donc je me suis mis j'ai commencé à dessiner des structures un petit peu à la Escher, mais aussi influencées par Piranèse également, en noir et blanc. Et puis quelques années plus tard, je me suis mis à la lithographie, j'ai découvert la gravure. Je disais que c'était grâce à mon petit séjour à l'école polytechnique où j'ai découvert, où il y avait un extraordinaire professeur de gravure qui s'appelait Jean Delpech, donc il m'a appris les techniques de base, le burin, l'eau forte. Et puis finalement, j'ai compris que c'était la lithographie qui me permettait d'exprimer le moins mal ce que je voulais exprimer. Donc après, je me suis mis à la lithographie. Donc j'ai produit une trentaine de lithographies. Mes représentants, effectivement, très souvent, des architectures bizarres. Et c'est là où, finalement, il y avait un rapport évident. Et d'ailleurs, certaines de mes lithographies s'appellent Trou Noir, Espace, Temps, Matière, Chronos,
ce genre de choses. Donc là, il y a des interprétations libres.
C'est des interprétations extrêmement libres, mais en utilisant toujours des éléments, c'est-à-dire, par exemple, des parties représentant le monde classique sous la forme de cathédrales gothiques, mais délabrées, parce que ça, le monde classique s'effondre sous l'effet de la physique contemporaine. Donc après il y a des damiers qui représentent le tissu de l'espace-temps qui est après troué, tout cet ensemble de choses. Alors j'ai fait des expositions en France et à l'étranger. Peut-être la plus belle que j'ai faite, c'était en 2005 je crois, lors d'un grand colloque en Italie, dans la cité de Pavie, où seront fêtés en fait le centenaire de la théorie de la relativité restreinte qu'Albert Einstein avait donc proposé en 1905. Et les organisateurs, connaissant mes activités artistiques, m'avaient demandé de coupler à ce colloque scientifique très sérieux, où j'avais fait aussi une communication très très technique et très sérieuse sur mes travaux en topologie, de faire une grande exposition. Et à cette occasion-là, j'ai ressorti évidemment les lithographies que j'avais faites bien avant, puisque j'avais commencé dans les années 80, et puis j'ai eu l'idée de faire ce que j'ai appelé des cosmosaïques. Et c'est aussi vraiment le fruit d'une sorte de réflexion sur le travail, d'une réflexion sur la symétrie et la brisure de symétrie. C'est-à-dire donc dans mes cosmosaïques, alors mes cosmosaïques, ça veut dire quoi? Que j'ai fait des sortes de mosaïques en prenant un motif, le motif étant puisé dans l'une de mes anciennes lithographies, et j'ai répété sur de très grands panneaux de plusieurs mètres carrés ce motif, mais en brisant la symétrie, c'est-à-dire pas juste uniquement en les répétant, en faisant une translation, etc. Ça donne pas des choses intéressantes, parce que ça fait une symétrie parfaite qui est figée, qui est statique, et j'ai commencé à faire des répétitions en faisant des rotations, en brisant légèrement la symétrie, avec cette idée qui est connue en toute chose, aussi bien dans l'art que dans l'histoire de la physique, que la brisure de symétrie, c'est ça qui crée le mouvement et c'est ça qui crée la dynamique. Donc la symétrie, c'est très beau, c'est très important, on en a besoin également dans l'élaboration des théories physiques, parce que c'est une première approximation de la nature, mais la nature, elle n'est pas totalement symétrique, heureusement, sinon on le serait figée et ennuyeuse. Donc voilà, j'ai essayé de transposer ça dans ces quelques cosmosaïques que j'ai eu donc l'occasion d'exposer à Pavie, voilà. Des panneaux qui sont restés sur place parce qu'ils étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient plus sortir de la salle, donc je ne les ai jamais ramenés.
Jean-Pierre Luminet, dans ce que vous dites, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que vous êtes physicien, théoricien, vous travaillez sur l'invisible, et pourtant, vous produisez des images, vous écrivez de la poésie, vous jouez de la musique, on y viendra demain. Pourquoi ce besoin d'image? Est-ce que c'est finalement un besoin nécessaire?
C'est vrai que j'ai besoin d'images. Alors, on a tous besoin d'images. Il y a des images intérieures qui jouent un rôle très important, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin de faire sortir ces images internes d'une autre façon et de donner à voir. Bon, je suis passionné de peinture, d'art. Hein. Donc, je passe beaucoup de temps dans les musées. Dès que je vais à l'étranger pour une conférence, je vais visiter le musée de la ville, etc., avec une prédilection pour certaines époques de la peinture, la grande Renaissance italienne, les œuvres d'inspiration religieuse, même si donc je n'ai plus cette religiosité, mais ça a quand même suscité dans l'histoire de l'art, parmi les plus belles, les plus beaux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Voilà. Puis après, les périodes plus récentes, Renaissance extraordinaire, fin 19e siècle, début du 20e siècle, voilà, pour ces formes d'art. Donc j'ai ce rapport à l'image. Je m'intéresse aussi beaucoup au rapport entre la peinture et l'histoire de l'astronomie. Et j'ai fait des décodages, je suis en train de faire un travail beaucoup plus approfondi en ce moment, que je mets progressivement sur mon blog, sur certaines œuvres, notamment celle de Van Gogh, les fameuses nuits étoilées que Van Gogh a peintes. Il y en a trois essentiellement, la terrasse de café à Arles, la nuit étoilée au-dessus du Rhône, toujours à Arles, toujours en 1888, et puis quelques mois plus tard, la fameuse nuit étoilée à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, j'ai commencé à faire des décodages de ces tableaux, en étudiant à la fois la correspondance de Vincent avec son frère, essentiellement, avec Émile Bernard, avec sa sœur, où il parle de son rapport au ciel provençal qu'il découvre, et de son désir de peindre réellement le ciel. Et à partir de là, je me suis dit, il a dû peindre réellement le ciel tel qu'il le voyait, puisque c'est ce qu'il expliquait dans sa correspondance. Et effectivement, à l'aide de logiciels de reconstitution astronomique, il est bouleversant de constater qu'effectivement, à tel moment, tel jour, à 5 minutes près, Van Gogh a fixé les positions des étoiles qu'il mettra plus tard dans son tableau, qu'il retravaillera. Et il les a fixées à un moment très précis, donc il a peint le ciel tel qu'il l'était réellement.
Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. Demain, on parlera musique.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Jean-Pierre Luminet. À voix nue, réalisation Assia Khalid, prise de son Christophe Papon, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoutez ce podcast sur franceculture.fr.